Merci d'écouter l'Alpha 10 13. Je suis maintenant avec l'historien et spécialiste des gauches, Jean-Numa Ducange. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons revenir sur la disparition d'une personnalité majeure de la gauche en France qui se décrivait comme un rigide qui évolue, un austère qui se marre et un protestant athée, Lionel Jospin, décédé hier à l'âge de 88 ans. Peut-être pour commencer, avant de rentrer dans les détails de sa vie publique, cette question très large mais inévitable, que retenir de Lionel Jospin ?
Je crois qu'on peut retenir de Lionel Jospin qu'il sera peut-être dans l'histoire le dernier dirigeant de gouvernement donc entre 1997 et 2002, dernier socialiste à avoir dirigé un gouvernement avec des communistes ministres. Ils se sont tellement affaiblis depuis qu'on peut difficilement penser qu'ils reviennent au pouvoir, avec des écologistes à une époque où les écologistes n'étaient pas ce qu'ils sont devenus par la suite, et aussi avec un parti socialiste qui à l'époque était encore très fort en termes d'adhérents, d'implantation. Entre-temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est affaibli aussi. Donc, peut-être que Lionel Jospin sera l'emblème d'une époque, d'une gauche, certes divisée, mais capable de se rassembler autour d'un projet politique, on va dire d'inspiration socialiste. Peut-être que c'est le dernier, on ne sait pas encore, mais enfin, tout de même, certains indices le montrent, me semble-t-il.
Et nous allons évidemment revenir sur cette gauche plurielle que vous évoquez là. Donc nous allons commenter les moments marquants de l'existence de Lionel Jospin. Commençons ici par ses années d'étudiant. On sait que Lionel Jospin a milité contre la guerre d'Algérie quand il était étudiant à l'Institut d'études politiques de Paris dans le milieu des années 50, avant d'intégrer l'ENA. Comment comprendre qu'il se lie, bien plus tard, à François Mitterrand, qui s'opposait, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, à l'indépendance de l'Algérie et allait jusqu'à dire « l'Algérie, c'est la France ».
Alors, effectivement, Lionel Jospin était dans sa jeunesse trotskiste, dans un des courants du trotskisme français, celui que l'on appelle lambertiste, donc de la figure qui s'appelle Pierre Lambert. Et donc, c'est un courant qui était extrêmement minoritaire dans l'opinion française, mais par contre, qui avait des groupes militants assez actifs, et notamment actifs contre la guerre d'Algérie, actifs sur des motifs anticoloniaux, et qui donc avait une certaine influence dans la jeunesse diplômée, sensible aux questions internationales. Et Lionel Jospin faisait partie de cette cohorte-là. Effectivement, ça peut paraître incroyable de se dire que ce jeune militant trotskiste va être ensuite, plus tard, premier secrétaire du Parti Socialiste sous François Mitterrand, alors que Mitterrand avait été un chaud partisan de l'Algérie française. Mais peut-être ce qu'il faut dire, c'est que les trotskistes en France, notamment le courant auquel appartenait Lionel Jospin, hein, on pourrait dire beaucoup de choses à propos de ce courant, mais avait une perspective, malgré tout, de soutenir une certaine unité de la gauche avec un vieux schéma qui consistait à penser la chose suivante. En 1936, il y avait déjà eu l'Union de la gauche, le Front populaire au pouvoir, et il y avait eu des grèves derrière, et les grèves peuvent aller plus loin, mener à la révolution. Et finalement, dans l'esprit des jeunes trotskistes des années 60-70, il y a l'idée qu'on va porter le PS au pouvoir, quelle que soit la personne qui porte le PS, et on va s'appuyer sur eux pour faire des grèves, faire la révolution, aller plus loin. Alors, c'est peu dire que Lionel Jospin, quand il va se rapprocher de Mitterrand, va évidemment progressivement abandonner ce type de perspective, mais il y a quand même une sorte de filiation. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée que on est d'extrême gauche, mais on va pousser à l'unité de la gauche pour, entre guillemets, les déborder sur leur gauche en temps voulu. On a raté l'occasion en 1936, on va réussir dans les années 1970. C'est d'ailleurs ce que penseront un certain nombre de groupes d'extrême gauche en 1981. C'est pas du tout ce qui va se passer, mais c'est encore une autre question. Mais donc, il y a quand même une forme de cohérence dans cet engagement. Ce n'est pas simplement un trotskiste qui renonce à tout et qui passe avec armes et bagages du côté du socialisme modéré. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et ça explique d'ailleurs pourquoi le personnage, quand sur la place publique, on découvrira qu'il avait été très actif dans le trotskisme, il sera toujours un peu gêné à expliquer cette démarche. Mais fondamentalement, elle n'était pas aussi incohérente qu'elle peut paraître a posteriori.
Oui, effectivement, puisque ça a été un engagement caché pendant longtemps concernant son passé trotskiste. Pendant longtemps, Lionel Jospin niera donc son appartenance à l'organisation communiste internationaliste, au courant lambertiste au sein du Parti Socialiste, évoquant d'ailleurs une confusion avec son frère Olivier. Ce n'est qu'en 2001, à la suite de révélations de la presse, qu'il reconnaît ce passé d'extrême gauche. Pourquoi, selon vous ?
Ça reste en partie une énigme, parce qu'après tout, je me souviens, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Daniel Vaillant, qui était un proche de Jospin, son gouvernement avait dit, mais écoutez, avoir été trotskiste, ce n'est pas une honte. À l'époque, vous comprenez, le Parti communiste était très stalinien, Le Parti socialiste avait un peu sombré dans les guerres coloniales, justement dans la guerre d'Algérie à laquelle on faisait allusion. Donc après tout, cette extrême gauche-là, qui par ailleurs ne soutenait pas non plus le régime maoïste, hein, parce qu'il y avait d'autres fractions d'extrême gauche, bon, c'était un engagement honorable. Mais c'est vrai que Jospin n'avait pas voulu reconnaître cela. Alors, une des hypothèses, hein, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que finalement Jospin était resté en contact assez longtemps avec ses anciens amis trotskistes, notamment avec le principal dirigeant de l'organisation communiste internationaliste, donc Pierre Lambert. Et donc on ne sait pas exactement quand est-ce que Jospin a coupé les liens totalement avec son ancienne organisation. Certains vont jusqu'à dire que jusqu'au début, voire milieu des années 80, il entretenait encore des liens avec eux. Donc probablement, alors qu'il n'était plus du tout trotskiste, il était premier secrétaire du PS, député, très actif dans le milieu mitterrandiste. Donc probablement gêné un peu par cela, craignant peut-être que l'on découvre qu'il avait été plus en lien que ce que l'on avait dit. Voilà. En tout cas, il s'est complètement raidi à l'époque sur cela, et finalement, ça a provoqué l'effet inverse, c'est que du coup, comme vous l'avez rappelé, il y a eu de nombreuses enquêtes journalistiques, des spécialistes d'extrême gauche se sont tournés vers ça, et tout le monde a évidemment clairement vu qu'il était, dans un premier temps, très actif dans cette organisation. Mais il y aura toujours un peu une gêne là-dessus.
Oui, effectivement, vous le rappeliez, au début des années 80, Lionel Jospin entretient encore des liens avec l'OCI, avec ce courant lambertiste. Quand il devient d'ailleurs en 79 secrétaire national à la coordination et relations internationales du PS, il déclare, je cite, « L'objectif du Parti socialiste n'est pas de moderniser ou de tempérer le capitalisme, mais de le remplacer par le socialisme ». Alors comment a-t-il vécu le tournant de la rigueur de 83?
Alors, Jospin fait partie de ceux qui, après avoir effectivement lancé de grandes envolées lyriques dans les congrès du PS, comme celle que vous venez de rappeler, rapidement s'est accommodé de la gestion dès 1981 et surtout 82-83, et a considéré finalement que, compte tenu du contexte international, compte tenu de la nécessité d'opérer le rapprochement franco-allemand, qui était très cher à François Mitterrand, compte tenu des difficultés internationales de l'époque, on est quand même dans un pays qui, malgré tout, subit encore les conséquences de la crise de 73, il y a un système monétaire européen qui a été mis en place en 79, auquel finalement Mitterrand ne veut pas toucher. Bon, et Jospin, dans sa rhétorique, comme d'autres d'ailleurs, disent, bon écoutez, enfin entre guillemets, une parenthèse de rigueur sur un certain nombre de mesures, mais on n'abandonne pas l'objectif final qui sera de revenir à une politique socialiste plus tard. Et puis bon, des arguments de l'époque, c'est aussi de dire en 1981 qu'ils avaient beaucoup fait, hein, l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité, aussi des mesures sociales sur les congés, etc. Et donc de dire, bon écoutez, là on va prendre quelques mesures, on n'a pas le choix, compte tenu du contexte économique, compte tenu du contexte international, mais on y reviendra plus tard, d'une certaine manière.
Effectivement, il qualifiait le tournant de la rigueur de parenthèse.
Exactement, c'était l'idée de se conformer, alors était-ce sincère ou pas, c'est toujours difficile, hein, l'idée de se conformer un peu à un schéma que l'on avait déjà vu lors de précédentes expériences gouvernementales de la gauche, notamment avec Léon Blum et Front Populaire en 36, de dire, bon écoutez, on fait une pause, hein, Blum c'était la pause en 37, d'une certaine manière Mitterrand et les autres en 83, c'est la parenthèse, mais nous ne renonçons pas donc à l'objectif final qui est le socialisme, la réduction des inégalités, voire à terme leur disparition. Bon, est-ce que tout ça a été uniquement purement rhétorique? Évidemment, ça se discute. Mais en tout cas, c'est présenté comme ça, et au moins partiellement, je pense, sincèrement, pensé par certains acteurs.
Il y a un moment très important dans la vie publique de Lionel Jospin, c'est quand il prend la tête du Parti Socialiste, lorsque François Mitterrand, pour se présenter à la présidentielle, abandonne son poste de premier secrétaire du PS et le confie à Jospin. C'est le 24 janvier 80 au congrès de Créteil. Il confie à Jospin les clés du parti. Est-ce qu'à ce moment-là, Mitterrand pensait déjà à l'après? Se disait-il que Mitterrand serait, oui, le prochain président de la République et qu'un jour, ce serait au tour de Jospin?
C'est difficile à dire parce que François Mitterrand, alors oui, il pensait sincèrement déjà en janvier 80 qu'il pouvait gagner, qu'il allait probablement gagner, ça c'est sûr. En revanche, sur la succession de Mitterrand, beaucoup de choses ont été écrites à ce propos. Il y aura le rôle de Laurent Fabius, hein, qui va être en fait plus tard longtemps le favori direct de Mitterrand. Il y aura une rivalité d'ailleurs terrible entre Jospin et Fabius à ce propos. Bon, disons que Mitterrand était très doué pour avoir un certain nombre de liens forts avec les caciques du Parti Socialiste, et s'arrangeait toujours pour d'une certaine manière à la fois avoir leur confiance, mais aussi les mettre en concurrence, hein, pour voir qui allait être la personne la plus à même de lui succéder. Alors, le statut de premier secrétaire du Parti Socialiste, il est à la fois évidemment très important et très élevé dans la hiérarchie de la gauche de l'époque, mais il est à double tranchant parce que, en même temps, c'est Jospin qui, en tant que premier secrétaire, a dû aussi assumer beaucoup de coups, a dû assumer, on vient d'en parler, le tournant de la rigueur, et un certain nombre de difficultés. Il y a eu des municipales très compliquées en 83, les législatives en 1986 vont être perdues, etc. etc. Donc, confier un tel poste, c'est à double tranchant, sachant que Mitterrand s'est toujours gardé le droit, c'est, je le dis poliment, parce que c'était un fin manœuvrier d'avoir des contacts avec d'autres pour les pousser en temps utile. Mais évidemment, je pense que Jospin, dès l'époque même, se vit comme le successeur de Mitterrand, et on le verra d'ailleurs très bien plus tard, en 1995 et en 2002. Lors des deux campagnes présidentielles, où il est convaincu qu'il peut l'emporter, ce qui d'ailleurs n'était pas tout à fait surréaliste vu les rapports de force de l'époque. Donc je pense qu'effectivement, très tôt, il a cela en tête.
Oui, là, les relations entre François Mitterrand et Lionel Jospin ont toujours été plus ou moins ambiguës. En 2001, par ailleurs, bien après la mort de Mitterrand, donc en janvier 96, Jospin déclare, en parlant de l'ancien président, qu'il ne fut pas, je cite, à proprement parler un socialiste, mais plutôt un républicain et un démocrate de gauche. Comment on peut comprendre cette déclaration ?
Alors, il y a des enjeux stratégiques à l'époque. C'est-à-dire que Jospin, on a retenu parfois une autre phrase, quand il dit en 2002 que son programme n'est pas socialiste, ce qui lui vaudra beaucoup de critiques. Oui. Mais en 2000 et 2001, il cherche aussi à se différencier d'autres voix de la gauche européenne. Il y a Tony Blair, en Grande-Bretagne, qui invente une troisième voie, qui est plutôt une voie, disons, libérale, très favorable à l'économie de marché, même si ça ne se limite pas qu'à cela. Et Jospin va plutôt essayer d'apparaître quand même comme le gardien du temple du vieux socialisme européen. Tout est relatif, mais tout de même. Donc, il envoie aussi des signaux à son aile gauche lorsqu'il dit que Mitterrand est, entre guillemets, simplement un républicain et un démocrate, parce qu'effectivement, autant François Mitterrand donc, a été réélu haut la main en 1988, autant les dernières années de son septennat ont été marquées par de graves difficultés, hein, pour le dire là encore gentiment, à partir de 1993, où le PS s'effondre complètement aux législatives pour une série de raisons. Donc, Jospin cherche aussi à envoyer des messages à son aile gauche. Hein. Il faut voir que le Parti communiste à l'époque fera par exemple encore aux législatives de 1997 près de 10%. Il existe aussi une extrême gauche active, mais qui peut être quand même influente, et Jospin sait de quoi il parle, parce qu'il en vient.
Il en vient, oui.
Donc, et donc il comprend ça, et donc il essaye d'envoyer le signal que lui, il est vraiment ancré à gauche dans le socialisme, et que d'une certaine manière, il n'assume pas totalement Mitterrand, parce que Mitterrand, pour partie, c'est quand même le synonyme de renoncement. C'est pas toujours très clair, hein, chez Jospin. Il y a des différentes lectures, hein. Certains disent, c'est au contraire celui qui a contribué à vraiment recentrer beaucoup le PS, à accompagner...
Oui, à droitiser le Parti Socialiste.
À droitiser, et d'autres disent au contraire que c'est plutôt quelqu'un qui a joué les équilibristes et qui l'a maintenu. C'est quelqu'un qui laisse un héritage finalement assez ambivalent, et que l'on relie évidemment à la lumière de la situation actuelle.
Oui, puisqu'effectivement, la position à gauche de Lionel Jospin a toujours été trouble, vous l'évoquiez à l'instant. Son entrée en campagne avait commencé par une boulette sur France 2. Le Premier ministre candidat, deux jours avant d'être officiellement investi par le Parti Socialiste, avait affirmé que son projet n'était pas socialiste. Je le cite, « Je suis socialiste d'inspiration, mais le projet que je propose au pays n'est pas un projet socialiste. Il est une synthèse de ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire la modernité. Si nous nous enfermions, si nous n'affrontions pas les défis de la mondialisation, je pense que nous serions dépassés, débordé, un socialiste appelant au défi de la mondialisation, ce n'est pas commun.
Non, c'était probablement une erreur politique de le dire de cette manière-là, parce que finalement, qu'est-ce qui faisait, qu'est-ce qui permettait à la gauche d'avoir un certain ancrage populaire, national, etc. C'était aussi une forme de réticence à l'égard de la dérégulation économique, de la mondialisation, et Jospin est apparu à ce moment-là comme finalement quelqu'un qui était plutôt centriste. Alors, on voit bien la démarche de l'époque, c'est de dire je ne vais pas me contenter de l'électorat, entre guillemets, bien ancré à gauche, sinon je ne gagnerai jamais. Donc, je vais apparaître comme celui qui peut réunir aussi une partie du centre. Mais il s'est un peu comment dirais-je, il a un peu envoyé des signaux contradictoires, et au bout d'un moment, quand vous envoyez des signaux contradictoires, vous perdez un peu sur les deux plans. C'est-à-dire qu'à la fois, il a perdu sur sa gauche, parce qu'il a dit, bah, finalement, je suis pas si socialiste que ça, donc ça a choqué quand même pas mal de gens à l'époque, mais pour les gens plus modérés, plus au centre, pour certains, Jospin, ça restait quand même un socialiste de la vieille école. En plus, comme le personnage est effectivement, ça a été beaucoup souligné, mais un peu raide, très droit, très sympathique a priori, enfin de ce que l'on peut voir dans l'espace public. Eh bien, donc du coup, le personnage apparaissait comme quelqu'un qui envoyait des signaux contradictoires et perdait un peu sur tous les plans. C'est ce qui a fait qu'il a effectivement eu des difficultés lors de sa campagne de présidentielle où théoriquement il devait gagner donc en 2002.
Mais il a commencé à envoyer des signaux contradictoires dès 97. Je pense ici à la vague de privatisation. Selon l'INSEE, entre 97 et 2002, plus d'un millier de sociétés du secteur public ou semi-public sont passées dans le privé. Le socialiste a privatisé plus que ses prédécesseurs de droite réunis avec ses privatisations à tout va. Est-ce qu'on peut parler encore d'une politique de gauche?
Alors, la gauche plurielle a mené une politique, là aussi, relativement ambiguë, parce que d'un certain côté, c'est quand même la réduction du temps de travail vers les 35 heures, même si la mise en place de ces 35 heures aussi beaucoup contestée. Mais enfin, depuis lors, il y a eu des aménagements, mais même les gouvernements de droite ne sont pas revenus dessus. Il y a eu un élargissement de la couverture maladie universelle, même si elle n'est pas totalement universelle. Le PACS, et puis donc des mesures économiques et sociales qui vont plutôt dans le sens effectivement de l'accompagnement du système tel qu'il est. La vague de privatisation à proprement parler n'a pas été, déclenchée par le gouvernement lui-même, il a complètement accompagné le mouvement qui avait été lancé avant, ça clairement. Et sur ces aspects-là, il est clair qu'une partie de l'électorat de gauche ne lui a jamais pardonné, hein, d'où le fort score de l'extrême gauche en 2002, qui s'élève, il est trois candidats trotskistes, mais qui s'élève à presque 10%. Et là, une des raisons de la défaite de Jospin est effectivement sur ce plan-là, c'est-à-dire d'avoir promis finalement qu'il maintiendrait une sorte d'économie mixte, hein. C'était ce que disait Rocard avant, c'était le nini, on arrête de privatiser, on arrête de nationaliser. Ben là, il sort du nini, c'est-à-dire qu'évidemment, il ne nationalise plus, mais en plus, il privatise plus que les autres. Donc ça devient effectivement incompréhensible, y compris pour une partie de la base du Parti Socialiste.
Ça tombe bien que vous évoquiez ce fameux nini, puisque effectivement, en plus pragmatique qu'idéologue, Lionel Jospin a soufflé à Mitterrand en 88 son fameux nini, et il va à son tour, une fois à Matignon, utiliser la formule ni libéralisme, ni étatisme, ni rigorisme, ni laxisme, ni privatisation, ni statu quo, ni europhobe, ni eurolâtre. J'ai presque envie de vous demander quelle différence entre le nini de Lionel Jospin et le en même temps d'Emmanuel Macron.
Alors, oui, on peut dire que d'une certaine manière, l'envoi de différents signaux, je vais faire ci un peu pour mon électorat de gauche et je vais faire ça pour rassurer le centre. Certainement, il y a des points communs. Disons qu'il y a une perte de substance idéologique qui commence dès les années 80-90 et qui s'accentue ensuite. Alors, là où quand même il y a une différence, c'est que la majorité parlementaire sur laquelle reposait la gauche plurielle de Jospin était donc une gauche plurielle, comme on l'a dit au début, hein, avec des communistes, des verts, etc., qui était donc une sorte de gouvernement pluriel, mais homogène, au sens où il n'y avait que des ministres de gauche, et il y a eu quand même un certain nombre de mesures que la droite n'aurait pas prise. Par exemple, les 35 heures, jamais la droite de l'époque n'aurait fait la réduction du temps de travail comme cela. Mais là où on peut rapprocher, disons, certains hommes politiques, donc de Jospin au président de la République actuelle, c'est qu'effectivement, on a toujours un peu l'impression que la ligne directrice manque et que par crainte, finalement, de perdre telle ou telle fraction de la population, de perdre telle ou telle sensibilité du parti, eh bien, on envoie des signaux divers et variés, on prend des mesures un peu rapidement, sans trop, finalement, que l'on comprenne quelle est la politique d'ensemble, quelle est la visée même politico-idéologique d'ensemble. Ça, c'est clair que, de ce point de vue-là, c'est pas propre à Jospin, c'est d'ailleurs pas propre, d'une certaine manière, à Emmanuel Macron. On voit bien qu'ils n'ont plus vraiment de projet global à proposer, quel que soit le projet, d'ailleurs, hein. C'est encore une autre question.
Oui, et dans la longue liste des Nini Jospinistes, j'oubliais sa déclaration de politique générale le 19 juin 97, où il propose un nouveau pacte républicain et assure qu'il n'y aura dans notre politique économique ni pause, ni virage, ni reniement. Revenons maintenant à l'idée de la gauche dite plurielle. Lionel Jospin en est l'architecte. Il a signé des déclarations communes avec le Parti communiste français, avec les Verts, avec le MDC, avec le Parti radical de gauche. Et lorsqu'il entre à Matignon comme Premier ministre de cohabitation, il compose une équipe où il y a à la fois des communistes, une ministre issue des Verts, un radical de gauche et évidemment des socialistes. Aujourd'hui, qui, selon vous, pourrait mettre en place cette union de la gauche? Qui pourrait être le Jospin de nos années 2020-2030?
Écoutez, franchement, aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui et dans les prochaines semaines, tout simplement, il n'existe personne de cette carrure-là, si je puis dire, pour différentes raisons. D'abord parce que les partis, en 1997 dont on parle, avaient beaucoup plus d'adhérents, de sympathisants. Il y avait un milieu beaucoup plus important sur lequel on pouvait se fonder pour construire une majorité politique. Et puis, il y avait surtout, pas que des militants, des sympathisants, mais beaucoup plus d'électeurs. Je n'ai plus le nombre exact en tête du nombre de voix. Évidemment, il faut faire le nombre de voix rapporté à la population. Hein. Il y a une majorité relative, majorité absolue, ben là, c'est pareil. Mais le total des voix de gauche, si on considère donc la gauche en incluant donc ce qui reste du PC, qui s'est considérablement affaibli, ce qui est la France insoumise aujourd'hui, les Verts et le PS, ce total-là est de toute façon extrêmement plus faible qu'en 97. Comme c'est plus faible, si vous voulez une majorité pour gouverner, c'est ce qu'on a vu donc à la suite de la dissolution de juin 2024, quand il y avait formellement une victoire de la gauche, mais en fait une victoire très relative, puisqu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée, eh bien ça pose la question de l'alliance avec, disons, pour ce qui concerne la gauche, potentiellement le centre-gauche. Mais si vous allez au centre-gauche, évidemment, vous allez avoir d'autres problèmes, qui est que la frange la plus radicale va se décrocher de vous. Dans l'idée de Jospin, et dans le contexte de 97, et de celui qui est en amont, en fait, pour préparer la gauche plurielle, hein, c'était Jean-Christophe Cambadélis qui avait théorisé ça dans une petite brochure, disons, voilà, il y a les socialistes dans l'histoire, il y a les communistes dans l'histoire, il y a la problématique écologique, il y a une forme de cohérence et de dialogue, si vous voulez. Et puis il y avait l'idée que quand même, tout le monde venait un peu de la même crèmerie, il y avait eu les divisions du XXe siècle, mais que l'on pouvait se retrouver. Désormais, c'est beaucoup plus clivé, et on ne voit pas quel individu pourrait permettre une telle structuration, tout simplement parce que les organisations concernées ont beaucoup évolué, se sont beaucoup affaiblies, et qu'elles ont moins d'électeurs derrière eux. Donc, bon courage à celle ou à celui qui voudra reconstruire un tel projet.
Et dans le prolongement de cette gauche plurielle dont nous parlons, je rappelle ici que la une de Libération aujourd'hui est la suivante, Lionel Jospin, singulier pluriel. Je reviens sur le communiqué de presse de la présidence de la République qui écrivait hier, homme de conviction laïque et sociale, Lionel Jospin incarnait une certaine idée de la gauche, sobre, exigeante, profondément démocratique, attentive à l'autorité de l'État comme à la protection des plus vulnérables. Avec sa disparition, nous perdons une figure de notre République. C'est le premier paragraphe de ce communiqué de presse. Est-ce une vue de l'esprit ou je lis bien là un tacle à la France insoumise? Puisque parler d'une gauche sobre, profondément démocratique, attentive à l'autorité de l'État, la présidence de la République a-t-elle profité de la mort de l'architecte de la gauche plurielle pour entériner la division entre les deux gauches dites irréconciliables et enfoncer la gauche insoumise?
Oui, ils auraient tort de se priver, si je puis dire, vu le contexte. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui est souligné, c'est d'ailleurs une des thématiques de la campagne de 2002 qui posait des problèmes et à gauche et à droite, c'était la question de l'insécurité, de toute une série de problèmes liés aux incivilités, etc. Et il est clair que sur ces questions-là, la gauche est plus clivée que jamais. Jospin était plutôt sur une ligne, on va dire, régalienne, assortie de quand même de mesures sociales, mais une ligne quand même plutôt régalienne, qui apparaîtrait aujourd'hui comme très ferme, et qui évidemment pouvait être partagée à ce moment-là par le PC et les Verts, et qui aujourd'hui ne serait plus partagée par une grande partie de la gauche. Donc ça, de ce point de vue-là, si on prend ce que disait Jospin sur ces questions-là, alors on lui a reproché en 2002 de ne pas avoir été assez ferme sur cela, sur sa droite, et d'avoir été trop complaisant à l'égard de ses problématiques sur sa gauche. Donc il a été encore une fois coincé là-dessus, mais il est clair que la ligne qu'il défendait là-dessus ne serait plus du tout reprise par une grande partie de la gauche actuelle qui se construit même d'ailleurs autour de la problématique des violences policières, etc., qui évidemment existent, mais donc ils insistent beaucoup là-dessus sans trop tenir compte des autres impératifs.
Et pour conclure, le journal L'Humanité écrivait hier, il restera Lionel Jospin comme la dernière personnalité à avoir essayé de gouverner à gauche, sans pour autant remettre en cause la mondialisation néolibérale. Êtes-vous d'accord avec cette description, Jean-Numain Ducange? La validez-vous historiquement?
Oui, je pense que c'est globalement juste parce que, encore une fois, on ne peut pas juste voir cette période de la gauche plurielle comme une succession de reniements, mais on ne peut pas avoir non plus cela comme une gauche conquérante et triomphante qui serait conforme, si je puis dire, à l'esprit du socialisme historique. On est dans une sorte d'entre-deux, mais qui effectivement ne s'est pas véritablement représentée depuis. Donc un diagnostic qui me paraît effectivement assez juste.
Merci beaucoup Jean-Numain Ducange. Je rappelle que vous avez publié deux excellentes biographies, l'une aux éditions Perrin, Jean Jaurès, et l'autre aux éditions Dunod sur Jules Guesde, l'inventeur du marxisme en France. Merci beaucoup Jean-Numain Ducange.
Merci à vous.